cela fait 8 ans que nous avons pris le parti de nous réunir au moins une fois par an pour tout d'abord rendre hommage, payer un tribut aux témoins de notre temps, notamment en mettant en exergue le visage, le nom des prêtres, des religieux, religieuses, des laïcs, lorsque nous avons leur nom, qui ont été assassinés pour leur foi au cours de l'année écoulée. Il nous semble que c'est tout de même la moindre des choses que de le faire au moins une fois par an. Pendant cette veille de prière, nous invitons également des témoins vivants, pour le coup, venir nous parler de ce qu'ils vivent dans leur pays. Alors, on essaie d'avoir des zones géographiques un peu différentes, mais la veillée de prière, qui est assez courte, hein, elle est rassemblée autour d'une heure et demie, permet de entourer ces témoins, qu'ils soient morts ou vivants d'ailleurs, et de prier, de chanter, de leur rendre cet hommage une fois par an.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des principaux invités de cette année ?
Nous avons essayé de diversifier un petit peu la zone géographique de nos invités. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile. On aurait aimé avoir un témoin de la Chine ou du Vietnam, l'Extrême-Orient. Et en réalité, les personnes que nous avons réussi à joindre, même si elles étaient partantes dans un premier temps, bien n'ont pas voulu ou pu donner suite. En soi, c'est déjà révélateur de la difficulté pour nos frères dans un certain nombre de pays de témoigner. Et d'ailleurs, cette édition sera dédiée à tous ces témoins qui n'ont même pas la possibilité de venir témoigner parce que c'est trop compliqué et que ça mettrait en jeu soit leur propre personne, soit leur communauté. Donc cette année, on va retrouver, eh bien, un peu comme d'habitude, le Moyen-Orient parce que c'est au cœur de nos préoccupations avec la Syrie et l'Irak. Et on sera dans un deuxième cercle, un petit peu plus éloigné, mais pas tellement, avec le Pakistan et le Soudan. L'idée, c'est que le témoignage soit assez court, assez poignant. Ils ont à peu près 8 minutes chacun. De Syrie, on aura Monseigneur Jean-Bar, qui est l'évêque d'Alep, qui nous parlera bien sûr de son pays, en sachant que Alep aujourd'hui, c'est un petit peu l'épicentre de la guerre dans ce pays. On aura Sœur Liga, c'est une religieuse irakienne qui vit avec les réfugiés au nord de l'Irak, qui pourra donc nous donner un peu un témoignage du cœur de la détresse de ces réfugiés. Ensuite, donc au Pakistan, on aura Monseigneur Qutz, qui est l'archevêque de Karachi et qui est le président de la conférence épiscopale pakistanaise. Il était déjà venu il y a quelques années et donc on est content de le retrouver parce que le Pakistan reste un des pays les plus compliqués également pour la présence chrétienne en ce moment. Et enfin, alors un témoin un petit peu plus original, on va dire, un prêtre espagnol, missionnaire trinitaire qui travaille au Soudan et notamment au rachat d'esclaves chrétiens. Ça permettra déjà de mettre en exergue cette réalité de l'esclavage qui, malheureusement, se poursuit aujourd'hui.
Qu'est-ce qui a changé depuis un an et la dernière édition ?
Depuis l'année dernière, eh bien, pas grand-chose. On a des zones chrysogènes où les chrétiens continuent de souffrir. On pense évidemment tout de suite au Moyen-Orient, avec la guerre qui continue en Syrie, avec la situation qui reste extrêmement tendue en Irak. Là-dessus, peu de progrès, même si au niveau géopolitique, l'arrivée sur le terrain de la Russie redistribue un petit peu les cartes. Ce sont des pays où, si la guerre continue, certains prédisent l'évanouissement, voire la disparition de ces communautés. Si l'on regarde statistiquement leur évolution ces dernières années, on est sur un réel effondrement. En Irak, on peut dire que depuis l'intervention américaine en 2003, c'est-à-dire un peu plus d'une décennie maintenant, plus des trois quarts de la communauté ont disparu. En Syrie, en l'espace de 5 ans, plus de la moitié des chrétiens ont quitté le pays. Et si la guerre ne cesse pas rapidement, la probabilité de leur retour diminue fortement. On est sûr, aujourd'hui en tout cas en ce qui nous concerne, des projets très importants au niveau financier d'aide à ces communautés réfugiées. Je donne simplement un exemple. En Irak, en un an, on a dépensé un peu plus de 7,2 millions d'euros pour accompagner les réfugiés chrétiens, essentiellement à travers trois dimensions. Tout d'abord, l'alimentation. Donc ils reçoivent des colis alimentaires chaque mois. Le logement, donc il a fallu louer des appartements, construire des villages entiers en préfabriqué. Et enfin, dernière dimension, l'éducation, avec la construction de 8 écoles pour les enfants chrétiens réfugiés. Mais bon, ce n'est qu'un exemple, on fait le même genre de choses en Syrie et également dans les pays limitrophes où sont réfugiés la plupart de ces chrétiens, notamment syriens, que ce soit le Liban, la Turquie et la Jordanie.
Quelles sont les autres régions où la situation des chrétiens est moins médiatisée peut-être, mais tout aussi préoccupante ?
Sur d'autres continents, pas de changement notable. Malheureusement, on n'est aimerait dire, dans le sens où on souhaiterait qu'il y ait plutôt des améliorations, qui malheureusement n'a pas vraiment été le cas au cours de cette année écoulée. La liste des régions géographiques où il est compliqué aujourd'hui d'être chrétien ne diminue pas. On est sur, à première vue, lorsqu'on prend un planisphère, une concentration de difficultés en Asie, paradoxalement ce continent qui a vu voir le christianisme, qui aujourd'hui le continent le moins touché par le christianisme. On retrouve des difficultés au-delà du Moyen-Orient, bien sûr, en allant vers l'Est, et bien dans l'Asie centrale, que ce soit le Pakistan, l'Afghanistan. On a des soucis de plus en plus importants avec l'Inde, ce qui est évidemment regrettable, d'autant plus que la communauté chrétienne y est assez minoritaire. On compte au maximum 2,5% de la population indienne qui est chrétienne, et cela ne l'empêche pas d'être aujourd'hui menacé de plus en plus par une espèce de montée du fondamentalisme hindou, certes minoritaire en Inde, mais qui a suffisamment de capacités de nuisance pour avoir des répercussions sur la sphère politique, et ce qui se traduit dans un certain nombre de régions en Inde par des difficultés croissantes pour les chrétiens. Et ensuite on arrive donc en Extrême-Orient où bien la situation en Chine, au Vietnam, au Laos n'a pas beaucoup évolué, et où les difficultés restent extrêmement importantes. Là, je parlais de l'Asie, il faudrait citer bien sûr l'Afrique, ou que ce soit dans la bande sahélo-saharienne, avec un peu l'épicentre au nord du Nigeria, avec Boko Haram, ou que ce soit dans la région des lacs, autour donc de la partie orientale de la RDC. L'Église et les chrétiens, de manière plus précise, sont souvent pris à partie, notamment pour le travail que l'Église fait dans ces régions pour essayer de défendre les populations locales. On a aussi, plus surprenamment, l'Amérique latine, parce que c'est le continent qui rassemble le plus de chrétiens aujourd'hui dans le monde. Alors pas de persécution organisée, et encore moins au niveau étatique, même s'il faudrait développer un certain nombre de pays comme Cuba, le Venezuela, la Bolivie, où on retrouve un certain nombre de difficultés. Mais c'est le continent sud-américain, qui réunit le plus de prêtres assassinés dans le monde chaque année. Alors pas forcément en haine de la foi, souvent pour des questions de vol. Ce que nous retenons, c'est que ces missionnaires, ces prêtres, ces religieux, religieuses acceptent de demeurer dans des contrées très pauvres et dangereuses pour le service de l'évangile, pour le service de la population locale, qui en général est pauvre, en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissant les risques. Lorsqu'ils donnent leur vie, même si c'est pas en haine de la foi, ça reste parce qu'ils ont voulu servir le Christ. C'est la raison pour laquelle nous leur attribuons le qualificatif de témoin, et c'est effectivement en Amérique latine que cela se passe.